Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous avons aujourd'hui la joie d'avoir dans ce studio de la rue de la Salie à Toulouse un des familiers de l'émission Les Poètes et qui a toute sa légitimité ici à Radio Occitanie puisqu'il s'agit de Gérard Zucchetto. Gérard Zucchetto, bonjour.
Bonjour, adisat stutis.
Merci plat d'être avec nous aujourd'hui. Alors Gérard, nous allons rapidement rappeler donc ce que tu es. Tu fais partie donc des continuateurs de l'immense œuvre de Robert Laffont, hein, qui est un des chantres de la littérature occitane et du renouveau, je dirais, de la culture occitane en matière d'édition, puisque tu publies Trobavox depuis maintenant de nombreuses années. Ça fait combien de temps que tu...
Nous sommes au quart de siècle, là.
25 ans donc, de publication de Trobavox. Alors, dans cet extraordinaire catalogue de publications, catalogue que vous pouvez trouver sur notre site lespoètes.site, puis également bien sûr sur le site de Trobavox, hein, où vous avez toutes les références donc, de ces publications. Donc Gérard Zucchetto, poète, musicien, musicologue, éditeur, va faire paraître donc tout un corpus sur les troubadours occitans qui représente donc plus de 2500 textes. On a du mal à imaginer l'immensité quand même de cette richesse qui est notre patrimoine. 2500 textes ont été publiés, ainsi que, alors ça c'est quand même, tu as été à mon avis l'unique au monde à pouvoir faire ça, 260 chansons qui ont été conservées avec leur mélodie dans les chansonniers médiévaux et que tu as mis en musique et diffusé donc dans ces éditions Trobavox. Un travail considérable et une sauvegarde de notre patrimoine.
Alors, je les ai remises en musique, c'est-à-dire que nous les avons recréées, puisque nous avons quand même les textes, même s'il est nécessaire d'en harmoniser la graphie pour en comprendre la substantifique moelle poétique, et nous avons également la trace de la mélodie sur les manuscrits. Dans ce corpus de 260 chansons, il y a 248 chansons qui sont attribuées à des noms de troubadours, et il y a 32 autres qui sont des anonymes. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons la chance, dans le patrimoine occitan, d'avoir la poésie lyrique qui est finalement le corpus le plus important au monde de poésie de chantée en langue profane. C'est-à-dire qu'à une époque où les moines des Froquets, les Goliards et l'Église chantaient en latin, les troubadours se sont imposés avec un genre de l'excellence poétique. Ce ne sont pas des chansonnettes.
Oui.
Hein, les chansons de troubadours, sont de véritables discours de réflexion philosophique, bien sûr poétique, mais également psychologique. Donc une grande réflexion sur ce qu'on appelle le sentiment amoureux. Mais qu'est-ce que le sentiment amoureux? Bon, à une certaine époque, au début du XXe siècle, Jean Maillard écrivait « Ils ont illuminé l'Europe avec un souffle printanier de joie, de jeunesse et d'amour ». Alors, dit comme ça, c'est très romantique comme vision. À y regarder de près, il est évident que même si les troubadours n'ont pas inventé l'amour, contrairement à une idée qui est largement répandue, ils ont en tout cas, contribue. D'amour, amitié, d'engagement et de respect entre deux personnes. Que ce soit des compagnons ou que ce soit des domnas. Et ça, c'est totalement nouveau. Ça veut dire que quand nous sommes au XIIe et XIIIe siècle, à la cour des comtes de Toulouse, s'épanouit un troubard qui va finalement inonder toute l'Europe. Et pendant deux siècles. C'est ça qui est formidable. Ce n'est pas un effet de mode.
Oui, ça dure deux siècles, ce qui est extraordinaire. Et ça s'inclut quand même dans la civilisation du XIIe et XIIIe siècle, qu'il faut rappeler, puisque tout cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu des cours des principaux seigneurs de l'époque. Et en particulier, une cour importante en Europe, qui est la cour des comtes de Toulouse.
Donc, la cour des comtes de Toulouse représente un des lieux incontournables pour faire entendre le troubard, et puis également créer du troubard. Parce que le troubard, c'est un art. Comme l'a défini Arnaud Daniel, art de troubard, c'est un art qui embrasse mut, sunt, razus, et il faut que tout soit formidable. Mut, prim primies, razus, original, et évidemment, mélodie, sunt, excellent. Donc, voilà une réflexion qui va s'épanouir dans cette cour des comte Raymond, dont Joseph Anglade, très grand romaniste et très grand spécialiste des troubadours, qui habitait Lézignan-Corbières et qui connaissait très bien la langue d'oc, dont un des plus subtils traducteurs du troubard, disait « Parmi les cours méridionales, il n'y en eut guère de plus puissante, de plus fastueuse et de plus accueillante que celle des comtes de Toulouse. » Et c'est intéressant parce que on sait que Francesco Petrarca et Dante Alighieri, grands amateurs du troubard, qui se sont inspirés l'un et l'autre, regardez aussi du côté de Toulouse. Je pense à Francesco Petrarca qui, dans ses Triomphi d'amore, témoigne et dit « Il y avait là tous ceux qu'amour saisit si légèrement, tous ceux pour qui la langue servit toujours de lance, d'épée, de bouclier et de casque. » Et deux bons troubadours de Toulouse, Peyre Vidal et Aiméric des Péguillans. Il faut savoir également que cette cour de Toulouse, celle de Raymond V et de Raymond VI d'abord, était tellement renommée qu'elle attirait des troubadours déjà célèbres dans des grandes cours et de très grands troubadours comme Bernard de Ventadour. Bernard de Ventadour, qui est limousin, fréquente la cour de Toulouse. Il est dit dans sa biographie « M. Bernard, si remas de sai, triste doulens, et vain, sen, album conte Raimund de Toulouse, et Abel estet trop quelcums mouri, et M. Bernard, per aquel odourou, si se rendet à l'ordre des Dalum et l'aide des Finettes. » Bernard de Ventadour resta de ce côté de la mer, triste et affligé, et se rendit auprès du bon comte Raymond de Toulouse, où il demeura jusqu'à sa mort. Et Bernard, pour la douleur qu'il a eue, ensuite entra à l'ordre de Dallon et y termina sa vie. Donc, le grand Bernard de Ventadour est à la cour des comtes de Toulouse. Et avec lui, toute une cohorte de troubadours dont nous parlerons tout à l'heure. Je vous propose, si vous voulez bien, d'écouter une chanson de Bernard de Ventadour qui s'appelle « Tantai mon corple de gioio, tutte me desnaturo, flou blanco, vermeio e groio, me par la frégure, etc. » J'ai mon cœur si plein de joie que tout se dénature pour moi. La froideur me semble fleur blanche, vermeille et jaune, car avec le vent et la pluie croît pour moi le bonheur. Et c'est pourquoi mon mérite monte et s'élève et mon chant s'améliore.
Posez vestiture in amor ma seguro della freso viso. Ma se sfolchi il desmesuro e nostre vede viso, perché vuoi preste me curo dei stati chiso.
Oui, alors Gérard Ezequiel, là, nous avons entendu la langue occitane, bien sûr, qui était la langue des troubadours. Mais également, nous avons entendu un chanteur qui chantait en arabe. Alors, ma question est la suivante. Que fait-il là? Pourquoi il y a cette langue? Et ensuite, ce sera une question plus générale. Comment se propager cette culture? Donc, a été une culture absolument rayonnante pendant deux siècles, hein, pour qu'elle puisse, comme ça, imprégner à ce point, vraiment, toute la culture européenne et au-delà, pendant deux siècles. Comment cela se propageait-il?
Alors, les cours, puisque nous parlons avec mon dernier livre, la Ligams, oui. Nous parlons de la cour des comtes de Toulouse. Les comtes de Toulouse faisaient leur quarantaine et partaient outre-mer, de l'autre côté de la mer, à Tripoli, à Jérusalem, et ils avaient des cours. Une cour, c'est un lieu itinérant. Il n'y a pas que la cour à Toulouse. Il y a la cour des comtes de Toulouse qui va se déplacer partout sur les terres du comte de Toulouse et au-delà. Et les comtes de Toulouse étaient très puissants. Et très souvent, ou pèlerinage ou intérêt politique, ils se retrouvaient à aller dans les cours arabes. Et les musiciens, et ça on le voit très bien dans le corpus des Cantigas per la Santa Maria, qui a été copié au XIVe siècle, sous Alfonso el Sabio, les musiciens qui fréquentent ces cours ne sont pas tous occitans, ils peuvent être de pays totalement différent. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrière en tout cas sociale. Peut-être la seule barrière qu'il pouvait y avoir, c'était celle de la langue. Mais les barrières linguistiques ne sont pas un frein à la création artistique. Sinon, nous n'aurions pas, par exemple, Dar Mudéjar à Toulouse.
Oui.
Ce que nous avons fait dans cet enregistrement qui est très ancien, avec Michel Rousset au piano et Fawzia Layedi, qui est irakien, à l'oud, c'est de prendre quelques chansons, ici celle de Bernard de Ventadour, et de la traduire en arabe, et ensuite la chanter. Ce que vous entendez, c'est la mélodie du manuscrit qui est dû à Bernard de Ventadour, dont c'est une mélodie originale qui date du XIIe et XIIIe siècle. Ce qui contribue également à l'épanouissement de la culture occitane, indépendamment des cours, c'est que ce sont des chansons. Et nous vivons au XIIe et XIIIe siècle où on se déplace peut-être à cheval, mais au rythme du cheval, puisqu'on est sur son cheval plusieurs heures par jour, on a le temps d'entendre et de développer cette notion de noter ce qu'on apprend à l'intérieur pour ensuite le chanter devant un public. C'est pour cela que nous trouvons des chansons qui sont quelquefois très compliquées, qui sont diffusées en dehors des cours, c'est-à-dire dans les rues de Toulouse, par exemple. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. La cour, elle a une fonction pour le puissant, c'est de montrer et faire étalage de ses largesses, largesses, hein, c'est un concept du Troubard, et parmi ces largesses, eh bien, c'est de donner à entendre la poésie qui s'est créée autour de lui dans l'une de ses cours. Et celle de Toulouse est très importante. Donc, la diffusion de la culture occitane, elle est diffusée partout et on la reconnaît encore parce qu'elle a été écrite. Il faut se méfier du folklorisme qui entoure le Troubard, qui consisterait à dire que tout ça n'est qu'une affaire de tradition orale, etc. C'est en partie vrai pour la tradition orale, mais à cette époque-là, les jongleurs développent beaucoup de mémoire. Mais ce qui est important à souligner, c'est que on note sur des brèves de pergamine, des brèves de parchemin, l'idée principale, quelques vers et les notes, et ensuite, ces brèves de pergamine sont assemblées dans ce qui va devenir de grands manuscrits. Nous avons 2800 textes, comme tu le disais dans l'introduction. Dans ces textes, il n'y a pas que des chansons. Il y a des épîtres, il y a des romans, comme le roman de Flamenca, par exemple. Il y a des récits de guerre, etc. Mais ce qui est important, c'est que la plupart de tous ces textes sont versifiés. C'est une donnée importante qui explique comment, à cette époque-là, au XIIe siècle, les troubadours, les inventeurs de poésie, ont le souci de léguer à l'avenir. Léguer à l'avenir, oui, des chansons.
C'est la transmission.
Donc, cette transmission, oui, elle passe par l'art, oui, de juglar, l'art, oui, des jongleurs.
Oui. Oui. Et les comtes de Toulouse, comme tous les seigneurs, tous les puissants de l'époque, avaient besoin, c'était leur vitrine aussi, il y avait une médiatisation, et le rayonnement des troubadours, évidemment, contribuait au rayonnement du seigneur.
Hein. Exactement. Ouais. Exactement, et
donc c'est un mécénat, mais un mécénat qui est toujours, par définition, sera toujours quand même intéressé, puisque le rayonnement de l'art va permettre effectivement la réputation du seigneur, du comte de Toulouse en l'occurrence.
Et il arrivait justement que certains troubadours apprennent au seigneur à écrire des chansons,
oui,
à jouer de la vielle. Et là nous avons un très bon exemple justement avec Peyre Raymond de Toulouse, qui a eu une carrière poétique qui s'est étalée entre 1180 et 1221. Donc c'est un troubadour qui est un troubadour qui écrit des mélodies gaies, faciles et riches. C'est ainsi qu'il le dit lui-même. Et figurez-vous que Peyre Raymond de Toulouse, indépendamment de son séjour à la cour de Toulouse, à laquelle il est très attaché, eh bien, il va très souvent voir le roi d'Aragon, dont il devient proche. Et dans une de ses chansons, il lui donne un conseil pour interpréter l'une de ses chansons à lui. Et il dit « Eab machansu » Enan skayur an, menvao lai e kurs, un joy e pret regno, e voi che la pregno cubletos violan e pos enchantan, de calguiso om lai deman. Et avec ma chanson, avant que j'aille ailleurs, je m'en vais sur le champ là-bas où joie et mérite règnent, et je veux que le roi Alphonse d'Aragon l'apprenne en jouant les petits couplets avec sa vielle et puis en chantant de telle manière qu'on la lui demande. Donc, eux-mêmes avaient ce souci, justement, de suivre un peu leur création. On appellerait ça aujourd'hui la communication ou la diffusion. Donc, je vous propose d'écouter une des chansons de ce grand troubadour de Toulouse, le père Raymond de Toulouse, qui s'inscrit justement dans ta question sur les cours tout à l'heure. Et cette chanson s'appelle « Pensamen eiekusi duno chansufaire ». J'ai l'intention et le souci de faire une chanson qui doive plaire à celle dont je suis l'amant parfait. Et si je pouvais réussir à trouver de belles paroles, je pourrais savoir que j'attends une joie plus parfaite que nul homme né de mère.
Pensamene e così di no chance faire, cale isdeghe sabedi che suffisa maire, e se o pugas aveni, en bus disretraire, fa pu gras saber che io plus fin gioi esper, che nul naz de maire. Cuore se nell'albi, al mese il dejaire, e lei sunra e servì, dare sua veraire, con poese il mondo ci ha usito, non pose straire, di munco muve, amor ne fai cantiene, lei spelunga braire. La vera valur, plus da otra valenza, el prese fresca culurs, e place magenza, vera sin vagues amurs, tanque m'entendenza, miron sabedis, plus rigioi che paradis, agrama parvenza. L'altra non forse cor fanni la girenza e un predessendo l'opre la insovidenza ma gendire masclamo non la perdevenza tan lissia clis con plesmas messa furtis ma il lam se spaienza. Ora li benestan sin desallegranza, tanca leo gesmuna fan, abdusa cui danza, che uli sui ser sengan, e non hai membranza, dal smas confese, tut so ca mi duns plagies, per appaumenanza. Gades ben va o me
non pleurei per causa, vale del soffre mondanza, una speranza e doblera monta, lanciave la semblanza, genti cor curtes, si preseste me merces, o calche pitanza.
Voilà, donc c'était Peyre Vidal. Nous parlerons tout à l'heure, si tu veux bien, de cette vie extravagante quand même de Peyre Vidal. Mais avant, il me vient une question sur le bout de la langue. Ces troubadours étaient quand même très divers dans leur comportement et dans leurs opinions. Et ils cohabitaient, comme on dirait aujourd'hui. Et en particulier avec un troubadour qui a marqué l'histoire des troubadours à Toulouse, qui est, on va dire, Fouquet
de Marseille.
De Marseille. Alors, oui,
il a justement, tristement, marqué son passage sur Terre, celui-là. Puisque c'est au départ un troubadour extraordinaire, qui écrit de très belles chansons avec de très belles mélodies. Et puis, il décide de s'enfermer au Toronnet avec femme et enfant. Il se fait élire abbé. Et puis, il est nommé à Toulouse. Et il devient évêque inquisiteur.
Inquisiteur.
Voilà. Pas moins.
Oui. Un poète, hein, parce que troubadours sont quand même les grands poètes de l'époque. Et qui va s'ériger en juge, et en juge terrible.
Oui, et puis qui va surtout combattre les valeurs qu'il a chantées jusque-là.
C'est ça, toutes les hérésies.
Et ce qui est intéressant, c'est que avant cela, il est très ami avec Raymond de Miraval,
oui,
avec lequel, entre eux, il se donne le surnom de Toustems,
oui.
Tout le temps, toujours.
Oui, oui, oui.
Il est très bien reçu et il a toute la considération du comte de Toulouse et ami d'autres troubadours. Et ce qui est étrange, c'est que c'est comme s'il avait une deuxième vie. C'est-à-dire que autant il a excellé dans le métier de troubadour qu'il va exceller tout autant dans le métier d'évêque inquisiteur. Je voudrais faire écouter ce que en dit le comte de Foix devant le concile de Latran à propos de ce Fouquet de Marseille. Donc, effectivement, on voit que le troubadour Fouquet de Marseille n'a aucune vergogne à faire passer les gens par le fil de l'épée. Et Fouquet de Marseille est un troubadour qui devient finalement un anti-troubadour.
C'est un phénomène quand même rarissime dans l'histoire des troubadours.
Et ce qui est complètement étrange également, c'est que Dante Alighieri,
oui,
il le met dans sa Divina Commedia, il met Fouquet de Marseille au paradis.
Et oui, oui,
c'est le seul troubadour qui est au paradis.
Alors qu'il met Bertrand de Born en enfer.
Bertrand de Born en enfer avec la tête portée à deux bras tous les autres au purgatoire.
Oui.
Mais Fouquet de Marseille, lui, il a droit au paradis.
Oui.
C'est, je suppose, c'est pas une erreur, hein. Je pense que Dante Alighieri essaye de nous envoyer un autre message. Donc, pour ceux qui sont avides de messages subliminaux, oui. Il suffit de faire une petite enquête.
Oui.
Foulquet de Marseille, en son temps, refuse toute chanson dès lors qu'il est évêque inquisiteur. Et Robert de Sorbon, le théologien, témoigne ainsi: Fulcetus episcopus tolosanus, cum audiebat cantare aliquam cantilenam, quam ipse existens, etc. C'est en latin. Fulquet, l'évêque de Toulouse, lorsqu'il entendait chanter quelques cantilènes qu'il avait composées dans le monde, ce jour-là, dès la première heure, il ne se nourrissait seulement que de pain et d'eau, d'où il advint qu'une fois, il était chez le roi de France, à un moment, un jongleur commença à chanter une de ses cantilènes, et aussitôt l'évêque demanda qu'on lui servît de l'eau, et il ne se nourrit plus que de pain et d'eau. Donc, il est complètement...
c'est dans le fanatisme religieux.
Subjugué.
Oui.
Le comte de Foix, Raymond Roger, qui répond aux accusations d'hérésie devant le concile de Latran, nous sommes en 1215, et dur per vous, seigneur, c'est inscrit dans le registre d'inquisition de Jacques Fournier, qui a été brillamment mis en lumière par Jean Duvernoy.
Oui.
Et je vous jure.
Il était évêque de Pamiers.
Oui. Et je vous jure, par le Seigneur, qui fut mis en croix, que jamais aucun bon pèlerin ni roumio engagé dans un saint voyage institué par Dieu ne fut maltraité, ni dépouillé, ni mis à mort par moi, ni attaqué sur sa route par des gens à moi. Mais quant à ces brigands, ces terres, ces traîtres, ces parjures qui, porteurs de la croix, sont venus me ruiner. Aucun ne fut pris par moi ou par les miens qu'il ne perdit les yeux, les pieds, les poings ou les doigts. Et je me réjouis de ceux que j'ai tués et massacrés, comme j'ai regret de ceux qui ont pu s'échapper et s'enfuir. Et je vous dis, au sujet de l'évêque, qui montre tant de véhémence quand sa personne et Dieu et nous sommes trahis, que c'est avec ses chansons mensongères aux paroles insinuantes que quiconque les chante ou les récite est un homme perdu par ses sarcasmes fourbes et tranchants. C'est grâce au don que nous lui avons fait qu'il put être jongleur. Avec sa doctrine mauvaise, il s'est élevé à une situation si haute qu'on n'ose rien répondre à ses mensonges. Aussi bien, quand il eut pris l'habit monacal, il fut abbé, le flambeau fut si obscurci dans son abbaye qu'il n'eut bonheur ni tranquillité jusqu'à ce qu'il en fût sorti. Et après son élection comme évêque de Toulouse, un tel incendie s'est propagé dans tout le pays qu'aucune eau jamais ne pourra l'éteindre. À plus de 500 000 personnes de rang élevé ou petit, il a fait perdre la vie et du corps et de l'âme. Par la foi que je vous dois, à cause de ses actes, de ses paroles et de toute sa conduite, il semble être plutôt l'antéchrist qu'un messager de Rome.
Extraordinaire.
Donc, dans...
C'est deux volants de vie.
Voilà,
c'est deux aspects...
vous l'avez compris, c'est un extrait
absolument stupéfiant, quand même.
C'est stupéfiant, oui. Surtout quand on regarde les poésies qu'il a écrites.
Oui, oui, oui. Comment
ce n'est pas de la chansonnette.
Oui, oui, oui.
Vous l'avez compris, c'est un extrait de la chanson de La Croisade. C'est repris dans la chanson de La Croisade.
Alors, on voit ces personnalités quand même extraordinairement diverses des troubadours. Celle-là vraiment est une espèce de paradoxe absolue, une curiosité quand même absolue, mais que l'on peut rattacher aussi au fanatisme religieux qui était aussi en vigueur quand même à l'époque. Mais si on revient à Peyre Vidal, alors là, on a un personnage totalement différent, haut en couleur, comment dirais-je, une espèce de roman picaresque avant l'heure. quand on regarde ça, la vie de Peyre Vidal.
Alors, Peyre Vidal, c'est la rock star de l'époque.
Oui.
C'est-à-dire qu'il écrit sa vie au jour le jour. Peyre Vidal se vante de tous les exploits possibles et imaginables.
Y compris avec les dames.
Ah, y compris avec les dames, mais plus encore.
Oui.
Hein, c'est-à-dire qu'il il écrit sous forme de gaps ce qui lui arrive, parce qu'il avait mal parlé de la dame du seigneur Barral, ou peut-être trop bien parlé. Le seigneur Barral des Baux de Provence lui a fait couper la langue. Et voilà Peyre Vidal qui part partout essayer de chanter avec une langue en argent. Une autre fois, il dit qu'il fait armer un navire impérial parce qu'il va se marier à Chypre. Une autre fois, on le retrouve à Malte. C'est peut-être le troubadour, parmi les troubadours, en tout cas, peut-être lui le plus grand voyageur, puisque on le retrouve à la cour de Hongrie. Nous avons été faire avec mon ensemble un périple là, sur les traces de Peyre Vidal, donc, c'est-à-dire à Chypre, à Malte et aussi en Hongrie et Slovaquie, où, en Slovaquie où il y avait un festival justement qui lui était consacré, les troubadours de Peyre Vidal. Donc Peyre Vidal, il a eu sa carrière poétique entre 1180 et 1204, donc 1204, dont il a connu la croisade contre les Albigeois, et il a bien entendu, il fait partie de ces troubadours qui témoignent dans sa chanson Mouscors Allegresses Giau. Il témoigne de tous les lieux qui, dans le Lauragais et le Carcassès, voit s'épanouir d'hérésie, et tous les lieux où il y a des dames qui sont notoirement connues pour être des protectrices des hérétiques. Fanjeaux, Montréal, Sessac, etc. Et puis, il y a la musique de Peyre Vidal, qui est une musique un peu comme celle de Bernard de Ventadour, avec de très très belles mélodies, avec de très beaux mots. D'ailleurs, lui-même sait définir son art ainsi: Adjustar lassa, saitange mutsesu, que del carric truba, num ven altalu. Je sais joindre et lasser si finement mots et mélodies, qu'en fait de troubards précieux et raffinés, pardon, personne ne m'arrive au talon.
Oui. Il était tout à fait conscient de son talent, hein. Tout à fait conscient de son talent. Voilà, on va l'écouter.
Torna su jem pruensa et Madonna sabu vendei fada i ocean su si val per le punoi senza ca servi e a un rama con chi ronde un signor dove ben fai te de honor chi bel sa tene in car perché o mendeis fursa. Peccat frispe edensa, es est opae quis perdu, et trais deliengendu, ed aedira perculensa. E gauge gele plura, ed amado sovo sabor, es iardit per paur, e sai perdere gazzagna e canse ben chius sovra.
Nous allons arriver à la fin de l'émission, mais il faut situer cette longue période donc de 2 siècles va avoir malgré tout une fin, et cette fin est quand même liée à la croisade contre les Albigeois.
Et oui.
Et à l'Inquisition, qui prône des valeurs qui sont des valeurs tout à fait contraires. Aux valeurs d'abord de l'amour courtois et de tout ce qui a été développé au préalable par les troubadours.
Le changement est radical, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les barons, sous le commandement de Simon de Montfort, prennent le pouvoir en ayant chassé les seigneurs occitans, le troubard n'est plus en vigueur dans les cours, c'est évident. Et d'ailleurs, même pas le trouver des trouveurs. Hein. C'est-à-dire la poésie, ce n'est plus du tout le moment de son expression. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de troubadours vont s'exiler vers l'Italie, essentiellement, et aussi vers l'Espagne, et puis en Sicile, chez Frédéric de Weinstaufen, et ceux qui restent...
Ils vont résister.
Prennent la plume en guise d'épée.
Oui.
Hein, nous assistons, par exemple, à des Cervantes mémorables, comme ceux de Guillaume Figuera, qui sont chantés dans les rues de Toulouse. Cervantes contre Rome. Oui. Et puis, il y a également quelqu'un qui est très proche du comte de Toulouse, c'est Peyre Cardenal, qui apporte un témoignage vibrant et sans ambiguïté sur la situation, puisque il dit lui-même que le temps n'est plus aux chansons, hein, et que à écrire, autant choisir d'écrire des Cervantes politiques. Tout le monde es vestit et tabarat de falsetat et tout jum va y crescen. Le monde entier est vêtu et trafiqué de fausseté, et chaque jour cela va croissant. Donc il chante contre, évidemment, les nouveaux envahisseurs et leur manière de vivre dans les cours. Français en clair en lausou del mal car ben lour en prenne. Les Français et les clercs sont loués du mal qu'ils font car il leur réussit. Les clercs jettent les chevaliers au carnage. Les clercs se donnent pour pasteurs et ce sont des assassins, etc.
Donc, c'est une parole très forte, hein. Très très forte. Par contre, une résistance, c'est de véritables cris, quoi.
C'est une poésie de résistance. Et c'est. Alors, c'est d'autant plus fort que Peyre Cardenal n'est pas connu, qui est quelqu'un de très puissant. Hein. Mm-hmm. Il est à la cour du comte de Toulouse, celui qui va contresigner des actes importants. Et lui, Peyre Cardenal, indique que c'est la fin du troubard et c'est la fin de la poésie courtoise.
Courtoise, voilà. Merci beaucoup, Gérard Zucchetto. Donc, à lire Ligams de Gérard Luc Zucchetto dans les éditions Troubavox, dans la collection Voz et Troubard, donc Poésie Occitane. C'est le numéro 66, c'est un très beau volume, et c'est un volume qui rassemble quand même toute une culture que nous devons absolument, non seulement connaître, mais faire rayonner aussi, comme l'ont fait nos ancêtres des troubadours, dont nous sommes, Gérard et moi-même, dont nous sommes les mainteneurs, les continuateurs.
De Gaïa Sienza et Gaïa Sabea.
Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitane et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gérard.
Merci.